jours, tout l'été, entre midi et midi 30, France Culture vous propose une série de 8 émissions consacrées à des intellectuels, des écrivains, des écrivaines des États-Unis tels que John Rawls, Judith Butler, Toni Morrison, Susan Sontag et bien d'autres dont la pensée continue à nous nourrir, et c'est la série Avoir raison avec. Depuis lundi, nous dressons le portrait de la biologiste marine et écologiste Rachel Carson, née en 1907 et décédée en 1964, 2 ans après l'immense succès de son maître livre Printemps silencieux, un ouvrage qui fera d'elle, selon certains, la sage-femme du mouvement écologique, ou encore, selon notre invité, une icône environnementale. Notre invité, depuis Angers, où elle enseigne l'histoire du mouvement environnemental américain, c'est Gelare Ivar Jaanzous, professeur de civilisation américaine. Rachel Carson serait-elle, avant même l'invention du terme, une écoféministe avant l'heure? C'est une des questions que nous lui poserons.
Il s'est trouvé que des hommes éminents et perspicaces ont pu à diverses reprises ameuter en quelque sorte l'opinion. Et je pense à cette réunion à laquelle j'ai assisté il y a quelques années, c'était quelques semaines avant l'assassinat de John Kennedy. Dans la salle du Congrès de Washington, on fêtait le centenaire de l'Académie nationale des États-Unis. Et le président est venu, admirablement jeune, et il a fait un discours sur l'état actuel de la Terre en ce qui concerne les destructions et l'avenir. Et il s'est inspiré d'un livre qui avait été publié quelque temps avant, qui était un livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, dont il y a eu d'ailleurs une édition française que j'ai préfacée. Et il se basait quelque peu sur les résultats, les expériences qui avaient été transmises par Rachel Carson. La foule était tendue vers lui, et quand il a terminé son discours, un éclatement d'applaudissements a résonné.
Voilà donc un président jeune décrit par Roger Haim, qui a été le premier préfacier français, justement, de ce livre Printemps silencieux de Rachel Carson, et qui témoigne effectivement de l'importance qu'avait prise, justement, après la parution en 1962 de ce livre, Rachel Carson, dans l'univers de la pensée américaine. Bonjour à vous, Gelare Ivar Jaanzous, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historienne donc du mouvement environnemental américain, mais que vous avez travaillé dans un contexte particulier sur la place des femmes dans ce mouvement environnemental américain. Alors, il faut peut-être dire que Rachel Carson, c'est un moment très important, et c'est ce que nous essayons de montrer depuis le début de cette série, depuis lundi, mais qu'il y a avant elle des précurseurs eux qui sont nombreuses et qui ont été oublié par la plupart de ceux qui travaillent encore sur cette question de l'histoire du mouvement environnemental américain en privilégiant des hommes, mais oublié aussi du grand public, alors qu'elles ont eu parfois de très grands succès qui sont des succès qui précèdent celui de Rachel Carson.
Oui, tout à fait. En fait, quand on évoque l'écologisme aux États-Unis, on pense souvent, on a souvent dans l'histoire du mouvement environnemental, on parle souvent des hommes comme John Muir, Aldo Leopold, Robert Marshall, mais les historiens ont peu pris en compte l'influence intellectuelle, sociale et même politique de certaines femmes dans le mouvement, enfin dans l'histoire des États-Unis, et surtout dans la jeunesse du mouvement. Dès le 19e siècle, par exemple, beaucoup de femmes américaines se sont engagées en faveur de la défense de la nature, surtout au niveau local. Ils utilisaient souvent l'écriture comme moyen de faire connaître et promouvoir leurs idées. Mais par contre, ces femmes-là étaient lues et reconnues dans leur communauté surtout. Et ils étaient pas vraiment, ils n'avaient pas le lectorat que Rachel Carson a eu après. Il y a, par exemple, je peux citer le cas de la fille de célèbre écrivain de Dernier des Mohicans, Susan Fenimore Cooper, qui a publié même un ouvrage qui s'appelle Rural Hours, qui n'a pas été traduit en français. Elle a publié en 1850, 4 ans avant Walden de Henry David Thoreau. Mais en fait, Susan Fenimore Cooper, elle a parlé justement, c'est la première personne qui a parlé dans son journal intime de thème de la nature et l'environnement naturel que c'était important de... elle a averti le public américain des dangers, des abus de ressources naturelles. Mm-hmm. Mais en fait, elle a été considérée comme amateur à l'époque. Elle a influencé Henry David Thoreau parce qu'il en a parlé et même s'est inspiré d'elle dans son ouvrage célèbre Walden. Même Charles Darwin, le biologiste mm-hmm. anglais, a écrit dans ses correspondances à Asa Gray, un historien britannique, qu'en fait, qui est cette Mademoiselle Cooper, qui parle des notions qui sont très importantes, mais bon, en fait, elle n'a pas été reconnue.
Ce qui est intéressant, Gelare Ibarjanzou, c'est que cette femme, par exemple, en 1850, et ça sera le cas, et vous avez travaillé sur ces femmes-là du 19e siècle, et également sur Rachel Carson, ne sont pas simplement des femmes qui défendent l'environnement, mais qui font ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de façon évidemment peut-être anachronique, elles pratiquent aussi l'intersectionnalité, c'est-à-dire elles sont des femmes qui s'intéressent à la condition des femmes, au suffrage des femmes, et en même temps défendent la nature, et d'autres défendent par exemple, sont hostiles à l'esclavage, etc. Donc il y a aussi chez ces femmes-là une conscience qui est une conscience croisée de différentes questions qui sont des questions qui, pendant longtemps ont été séparés, mais qui, chez elles, marquent effectivement l'intérêt de croiser les problématiques.
Tout à fait, tout à fait. Par exemple, beaucoup de ces femmes, il y a une contemporaine de Susan Fenimore Cooper, Grace Anna Lewis, qui était la première femme ornithologue professionnelle. Elle était d'abord engagée dans le mouvement en faveur de, contre l'esclavage. Elle a été aussi dans le mouvement pour l'interdiction de l'alcool, prohibition, mouvement aussi pour le suffrage des femmes et aussi mouvement pour la protection de la nature. Mm-hmm. Et ils ont fait partie d'un mouvement littéraire qui s'appelle, mouvement de l'étude de la nature, Nature Study Movement. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de femmes éduquées qui ont essayé, mais ils n'avaient pas le lectorat de
Rachel Carson. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous décrivez dans vos travaux, c'est que la question des oiseaux, et on sait combien Printemps silencieux se fonde sur la disparition de certaines espèces d'oiseaux, la question des oiseaux prend très tôt place dans le combat pour la nature aux États-Unis de la part de ces femmes que vous décrivez. Et l'une d'entre elles, dont on n'a pas encore cité le nom, à la fin du 19e siècle, s'appelle Sarah Horne Jewett, et elle est à l'origine d'une prise de conscience de l'idée qu'il ne faut pas prélever trop sur les oiseaux, prélever trop sur cette nature et sur cette ornithologie, parce que, justement, ça mettrait en danger l'ensemble de la planète.
Tout à fait. En fait, Sarah Horne Jewett, qui a écrit en fait un ouvrage très célèbre à l'époque, en 1886, elle a écrit une collection de nouvelles, A White Heron, où pour aujourd'hui, pour beaucoup d'historiens, elle est non seulement à l'origine du mouvement Audubon, le mouvement pour la protection des oiseaux, mais aussi à l'origine du mouvement écoféministe, parce que elle était féministe avant son temps. Elle était très très influencée par tout ce qui concerne la situation des femmes à l'époque. Mm-hmm. Elle a aussi, elle n'était pas la seule. Il y en avait d'autres. Par exemple, l'observation des oiseaux, birding, à l'époque, était un passe-temps très à la mode, et c'était aussi un passe-temps qui était socialement reconnue acceptable pour les deux genres. Mm-hmm. Donc beaucoup de femmes de classe moyenne et supérieure ont participé à un mouvement qui s'appelle Mouvement pour la conservation, qui se scindait en deux parties, les préservationnistes et les conservationnistes. Et les femmes étaient souvent du côté des préservationnistes et de John Muir. Donc justement, c'est une des critiques de Rachel Carson après, c'est que dans les années 60, c'était encore assez méconnu et on le critiquait comme quoi elle était trop idéaliste. Elle était quelqu'un qui était le follower de John Muir.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous pointez dans vos propres travaux, Gelare Ibarjanzou, une sorte d'oubli de tous les acteurs de ce mouvement de défense de l'environnement, l'oubli de ce prélude, pourrait-on dire, où les femmes sont précurseur de ce mouvement. Et vous dites, en fait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on oublie ce qui s'est passé, leur rôle, leur importance, y compris leur succès, parce que parfois certains de ces livres ont eu du succès au 19e siècle. Et comme une sorte de redécouverte postérieure, eh bien, on va redécouvrir avec Rachel Carson, justement, ce rôle des femmes dans la préservation, la conservation de l'environnement.
Oui, oui, tout à fait. En fait, à partir de jusqu'à 1915, la plupart, une majorité de membres des groupes conservationnistes, la Société Audubon, le Sierra Club, étaient des femmes. Mais ils ont perdu après la grande bataille de Hetch Hetchy, la controverse de Hetch Hetchy.
Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit, cette grande bataille qui est très importante au tout début du XXe siècle.
Oui, c'est ça. Au tout début du XXe siècle, en fait, c'était une sorte de bataille pour pouvoir exploiter les ressources naturelles à l'intérieur d'un parc naturel. Et donc les préservationnistes étaient contre et les conservationnistes, donc ils étaient tous partis de mouvements de conservation pour les ressources naturelles. Les conservationnistes voulaient qu'on utilise, ils avaient une approche plutôt anthropocentrique, tandis que les préservationnistes voulaient préserver la nature pour la nature. Et les femmes, dans cette controverse, ils ont eu une attitude préservationniste. Et comme la bataille a été perdue par les préservationnistes, les femmes ont aussi été mis de côté. Mais par contre, il y a aussi le cas de Rosalie Edge, qui dans les années 30, c'était une autre femme célèbre pendant l'ère de New Deal. C'était d'ailleurs la cousine de l'écrivain britannique Charles Dickens. Elle était suffragette, elle était encore une fois très impliquée dans d'autres mouvements. Elle était membre très active de Société Audubon, même si Audubon avait perdu beaucoup de ses supporters femmes à l'époque. Mais elle a été peut-être la première à dénoncer l'utilisation aveugle des toxines et des pesticides. Et même, elle a signalé le danger du DDT dès 1948, c'est-à-dire 14 ans avant la publication de Printemps silencieux. Mais encore une fois, sa voix peine à se faire entendre au niveau national.
Ce que permettra justement le succès immense des ouvrages qui précèdent Printemps silencieux, on l'a déjà dit, de Rachel Carson, c'est-à-dire La mer autour de nous et la trilogie marine, puisqu'elle est biologiste marine, avant de commencer ce travail qu'elle va faire sur les pesticides qu'elle appelle biocides. Mais ce qui est extrêmement intéressant, Gailare Ivar-Jahanzou, c'est de montrer effectivement, de retrouver les jalons qui permettent de conduire à Rachel Carson, qui est notre héroïne de la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette société Audubon dont vous parlez va financer les travaux de Rachel Carson pendant le Printemps silencieux, puisqu'elle travaille sur les oiseaux et qu'elle aura une sorte de bourse, je crois, qui lui permettra de préparer le travail qui est le sien et cet ouvrage.
Oui, et puis aussi le Sierra Club. Il y avait plusieurs organisations conservationnistes qui ont aidé, qui l'ont financé, effectivement. Et donc, elle a passé 4 années à faire des recherches avant la publication de Printemps silencieux, effectivement.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce Printemps silencieux, page 138 de l'édition française publiée aux éditions Wild Project.
Ces insecticides ne sont pas des poisons sélectifs. Ils n'identifient pas l'espèce particulière que nous voulons supprimer. On les utilise uniquement à cause de leur virulence. Ils détruisent toutes les vies qu'ils rencontrent. Le chat dans la maison, le bétail dans la ferme, le lapin dans le champ, l'alouette dans le ciel. Ces créatures n'ont causé à l'homme aucun mal. Bien au contraire, leur existence même lui rend la vie plus agréable. Et pour récompense, nous leur infligeons une mort non seulement soudaine, mais horrible.
Extrait de Rachel Carson, Printemps silencieux, dans la publication française chez Wild Project. Alors, Gailare Ivar-Jahanzou, on voit aussi une vision particulière de la protection de la nature qui pénètre jusque à l'intérieur des maisons, puisque ce que raconte dans cet extrait Rachel Carson, c'est que effectivement il ne faut pas se croire protégé chez soi, puisque le chat peut y mourir, le bétail peut mourir également, le lapin, l'alouette et tous ceux qui sont autour de vous, jusqu'à vous toucher vous-même.
Tout à fait. Et cette révélation pour le public américain était vraiment très choquante parce que pour eux, DDT était quelque chose de très positif. Il y avait des campagnes de publicité par le gouvernement américain jusqu'à là. Et quand elle a justement montré dans son ouvrage, c'était vraiment très, 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 très choquant. Et d'ailleurs, président Kennedy, il a demandé à une commission de faire une enquête et qui a finalement montré la véracité des paroles de Rachel Carson.
Mmh. Alors, comment faites-vous pour ramener, pourrait-on dire, Rachel Carson vers l'écoféminisme? Il faut que vous nous expliquiez d'ailleurs ce qu'est cet écoféminisme qui a été inventé en France par Françoise Debonne, une militante féministe des années 70, et ce qu'il est et pourquoi on pourrait dire, selon vous, que Rachel Carson, bien que le terme n'ait pas été utilisé à l'époque, puisse être une sorte des pionnières de l'écoféminisme culturel.
D'accord. En fait, l'écoféminisme est à la fois un courant de pensée et un mouvement militant. C'est à la croisée des chemins de l'écologie et du féminisme. Donc, comme vous dites, pour la première fois, c'est Françoise Debonne, dans son ouvrage en 1974, Le féminisme et la mort, qui a parlé justement, qui a demandé aux femmes de mener une révolution écologique pour sauver la planète. Une révolution qui engendrait des relations nouvelles entre les femmes et les hommes et aussi entre les êtres humains et la nature. Donc ça, c'est la base de la pensée écoféministe. Alors, le problème, c'est que l'écoféminisme n'existait pas à l'époque où Rachel Carson a écrit son roman. Rachel Carson ne s'est jamais considérée comme une féministe, mais il y a des tendances écoféministes. Pas que l'écoféminisme a aussi plusieurs types de tendances, c'est-à-dire il y a des écoféministes qui sont libérales, plus modérées qu'on appelle. Ces écoféministes, elles disent qu'elles sont inspirées par l'œuvre de Rachel Carson, qui était une femme biologiste elle-même, qui a mis en garde la société américaine contre les conséquences de cette destruction par les pesticides. Mais en fait, pour eux, c'est pas une coïncidence que le précurseur du mouvement écologique soit une femme. D'après elle, les problèmes écologiques résultent aussi de toutes les ressources, exploitation de ressources par les hommes. Et donc, pour eux, c'est une manque de réglementation adaptée qui aurait pu être évitée si les femmes avaient le pouvoir. Donc, pour ces femmes, effectivement, il y a Rachel Carson était leur source d'inspiration. Et pour eux aussi, qu'il y a aussi beaucoup de écoféministes actuellement qui militent et pensent que bon, c'est le militantisme écologiste commencé par une femme, Rachel Carson.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut-être rajoute à ce portrait féminin, sinon féministe, c'est son combat contre le cancer du sein. Elle est donc atteinte d'un cancer du sein, elle est en rémission, elle écrit Printemps silencieux, elle mourra 2 ans après la publication de ce livre, en 1964, de ce cancer du sein. Et certaines, effectivement, des féministes contemporaines voient aussi dans la manière dont elle a traité cette question de son cancer du sein, c'est-à-dire sa relative discrétion sur cette maladie pour que ses opposants, qui étaient nombreux à l'époque, n'utilise pas justement cette maladie pour contre elle d'une certaine façon pour pouvoir l'attaquer, eh bien considère cela comme un geste particulier, Gelare Ivar-Jahanzouz.
Oui, tout à fait. En fait, elle est restée toujours. Elle savait que son ouvrage, au moment de la publication, elle était consciente qu'elle allait susciter de violentes critiques. Donc, elle a essayé, pour éviter toute autre polémique, de rester très discrète sur sa vie professionnelle. Bon, c'est une femme non conventionnelle pour l'époque. Elle n'était pas mariée, mais elle était mère célibataire. Elle élevait un enfant de sa sœur qui était née hors mariage, qu'elle avait adopté. Elle avait aussi des relations intimes avec une autre femme, une correspondance intime plutôt, avec une femme mariée qui s'appelle Dorothy Freeman. C'était une voisine quand elle s'est déménagée pour habiter dans le Maine. Donc, elle était assez non conventionnelle. Elle a aussi, comme elle était malade justement, elle ne voulait pas utiliser le prétexte de sa maladie comme un combat personnel contre le DDT. Donc elle est restée très très discrète sur sa vie personnelle. Et c'est seulement par on apprend beaucoup sur sa vie personnelle à travers la correspondance régulière qu'elle a gardée avec Dorothy Freeman pendant les 11 années, dernières années de sa vie.
Et d'une certaine façon, ce qui est très intéressant, c'est que ce succès est immédiat. On l'a dit dans plusieurs émissions de cette série sur Rachel Carson, le succès du printemps silencieux. Mais il y aura comme une sorte de moment où on l'oubliera et où on la redécouvrira. Et justement, ce que vous nous dites, Gelary Ivar-Jahnsous, montre aussi qu'il y a la possibilité de sortir de l'oubli des personnalités qui ont été mises de côté par l'histoire des idées, par exemple, de les sortir de l'oubli pour justement se servir de leur exemple, se servir de leur œuvre encore aujourd'hui. Et c'est l'impression que donne Rachel Carson, c'est-à-dire que dans les années 70-80, elle est peut-être un peu oubliée. La fin du millénaire effectivement change quelque chose. Et puis, à partir des années 2000, on la redécouvre, de jeunes militantes en particulier, elle la redécouvre.
Oui, tout à fait. Surtout avec l'essor du mouvement de justice environnementale, où les femmes ont un rôle très important dans ce mouvement. Donc, en fait, les militants dans le mouvement pour écologique de base, grassroots environmentalism aux États-Unis, il y a à peu près 80% des participants sont des femmes. Et c'est, je pense, ce lien entre les femmes et les femmes, surtout d'origine, issues des minorités, donc c'est à partir de là qu'on a redécouvert justement l'impact des femmes et surtout au XXIe siècle, effectivement. Son ouvrage a été republié.
Ce qui est très intéressant, c'est que il faut attendre quelques années avant après la mort de Rachel Carson pour que un fonds se mette en place, le Rachel Carson Fund, qui va permettre à des organisations écologistes de se nourrir financièrement, de lancer des procès, de lancer des procédures, et en particulier ces procès qui vont conduire à la fin des années 60 et au tout début des années 1970, à interdire le DDT en 1972, définitivement, après qu'il a été interdit dans d'autres États, dans certains États, mais là, il a été interdit dans l'ensemble du territoire américain à partir de 1972. Et c'est bien quand même la mémoire de Rachel Carson qui va permettre, justement, par les fonds récoltés, de combattre tout cela.
Oui, tout à fait. En fait, Rachel Carson a eu quand même un impact politique pendant les années 60, la fin des années 60, 70. Il y avait les séminaires Kennedy, donc on la participait. Il y avait des membres du Congrès américain qui ont été influencés. Il y avait le ministre de Interior, aménagement du territoire de l'époque, mm-hmm. Stuart Udall, qui a aussi été très inspiré par l'œuvre de Rachel Carson. Et il y avait aussi un juge à la Cour suprême qui est d'ailleurs qui a écrit le préface de la réédition de Printemps silencieux. Donc elle a eu un impact, mais son succès posthume, c'était en 1972 quand le DDT a finalement été interdit aux États-Unis, et aussi la loi fédérale pour le contrôle des substances toxiques qui a été promulguée par le Congrès en 1976. Donc effectivement, son succès est arrivé à la fin des années 70.
Oui, et cela justifie pour l'historien John McNeill, par exemple, de qualifier l'ouvrage comme le plus important jamais écrit par un Américain ou par une Américaine. Ça justifie aussi en 1984, et là il y a quand même aussi une vision, donc misogyne, mais en tout cas particulière, de Robert Capron Mitchell, qui dit que c'est la sage-femme du mouvement écologiste. Évidemment, on comprend bien la métaphore. Pourquoi vous dites vous-même, Gelary Ivar-Jahnsous, que c'est une icône environnementale? En quoi est-elle une icône environnementale?
En fait, Rachel Carson est aujourd'hui comme une figure légendaire. Elle a influencé, une source d'inspiration pour l'écologie profonde, pour l'écologie populaire, pour l'écoféminisme, mais aussi dans la culture populaire américaine. Par exemple, il y a un timbre à son effigie, il y a des statues qui ont été construites à son honneur. Elle apparaît dans des bandes dessinées, par exemple Peanuts, qui est un bande dessinée très connue. Elle a été aussi une source d'inspiration pour la musique populaire dans les années fin des années 69. Il y a des chanteuses, Joni Mitchell, qui a aussi fait référence à elle dans ses chansons, etc. Donc en fait, c'est un nom qui est devenu vraiment une icône culturelle actuellement aux États-Unis.
Et vous y travaillez depuis un certain temps maintenant, puisque votre premier ouvrage sur le mouvement écologique américain date d'il y a quelques années. Vous continuez à y travailler et plus vous vous approchez de la figure de Rachel Carson, plus vous trouvez de quoi vous nourrir en tant que chercheuse Gelare Ivar-Jahanzeus. Qu'est-ce que vous découvrez au fur et à mesure que vous l'inscrivez, comme vous l'avez fait dans cette émission, dans la longue histoire du mouvement environnemental américain et en particulier des femmes dans le mouvement environnemental américain, mais aussi dans la particularité qu'elle a, justement, d'être un personnage singulier dans cette histoire.
Oui, en fait, je découvre de plus en plus le rôle des femmes. Bon, Rachel Carson, mais ça m'a attiré l'attention sur d'autres femmes qui sont très importantes dans la pensée écologique américaine. Donc, ça m'a... En ce moment, j'essaie de travailler sur l'impact des femmes, l'impact de l'intersectionnalité, le genre, et aussi la race, et aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes issues des minorités qui sont impliquées dans les mouvements écologiques, surtout le mouvement pour la justice environnementale en ce moment.
Et ce mouvement pour la justice environnementale, dont vous avez déjà parlé dans cette émission, il a une importance qui dépasse les frontières des États-Unis, ou est-ce qu'il est momentanément circonscrit justement à ces frontières américaines ?
Non, c'est un mouvement international actuellement. Il y a dans tous les pays, aux États-Unis bien sûr, ça a commencé aux États-Unis, officiellement après une conférence en 1991, mais maintenant dans tous les pays, on découvre, surtout dans le pays du Sud, on découvre le rôle des femmes qui n'étaient pas forcément impliquées, qui n'étaient pas écologistes, qui se sont vraiment devenues militants par la force des choses pour justement défendre leurs enfants, leur famille, leur environnement naturel. Ils sont déjà été stigmatisés pour avoir été not in my background, NIMBY, le sigle NIMBY. Disons qu'ils étaient très très intéressés par la protection de leur environnement
direct,
le plus proche,
oui.
Direct, tout à fait. Allez. Et c'est le cas aussi des femmes en Afrique, des femmes en Amérique du Sud, des femmes dans les pays d'Asie, etc. Donc c'est un mouvement international actuellement.
Et pour toutes ces femmes en particulier, on en discutait hier avec notre invitée Marie-Monique Robin, qui a reçu le prix Rachel Carson en 2009. Et bien effectivement, la figure de Rachel Carson est une figure importante, puisque elle est aussi, on lui rend hommage par l'intermédiaire de ce prix qui couronne une femme qui a tenté ou voulu ou décidé de défendre l'environnement. Merci beaucoup à vous, justement, Gelare Ivar-Jahanzeus, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes autrice d'un livre qui s'intitule Le mouvement écologique américain. C'est aux éditions Ellipse et qu'on peut trouver beaucoup de vos articles sur les grands sites que sont Cairn ou encore Open Edition, qui sont des articles que vous avez consacrés à Rachel Carson dans des revues dont vous êtes donc une contributrice, puisque je rappelle que vous êtes spécialiste de ce mouvement environnemental et professeur de civilisation américaine. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
C'était Avoir raison avec Rachel Carson. Remerciements au centre de modulation de Radio France qui nous a permis la liaison avec Gelare Ivar-Jahanzeus, qui était chez elle du côté d'Angers. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. Recherche musicale, François Merlin de la discothèque de Radio France. Réalisation ainsi que lecture des textes, Asia Ralid. Demain, nous concluons cette série d'émissions consacrée à Rachel Carson avec la philosophe Catherine Larère.